Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmoundi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenu les 13 et 14 novembre dernier. Si son succès se mesurait au nombre croissant de ses participants, à savoir 300 la première année et près de 1000 l'année dernière, ils étaient moins nombreux cette année au rendez-vous, environ 700. Alors cette année, la rencontre a enregistré moins de pays francophones aussi. Est-ce que les résolutions auront une portée continentale? L'Afrique a-t-elle réellement les moyens d'assurer sa propre sécurité? Alors pour en débattre, nous avons fait appel à Mamadou Diouara, il est chef du cabinet de recherche Gaïa. Bonsoir.
Bonsoir.
Diachari Poudjougou est docteur en sciences juridiques et politiques. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Docteur Ali Tunkara est sociologue. Docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Et William Assanova est chercheur à l'ISS Abidjan. Il sera avec nous au téléphone et je suis Aliou Sidibé à la présentation.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue sur ce plateau. En plus du nombre réduit tantôt signalé, aucun représentant de pays de haut niveau des pays de la Corne de l'Afrique du Sud ou du Nigeria n'était présent à cette édition, selon un observateur. Pourtant, ces pays connaissent des crises sécuritaires majeures. Alors, docteur Zachary Diachary, cela a-t-il limité la portée des débats cette année?
On peut répondre par l'affirmative parce que logiquement, plus on est nombreux, plus on a une occasion de mieux échanger et d'enrichir les débats. Donc on aurait souhaité quand même voir ces pays qui connaissent une insécurité dont le Nigeria soit présent. Donc logiquement oui.
Ah ok. Alors Monsieur Diouara, est-ce que le nombre réduit des participants et puis voir quand même la carte géographique quand même des participants, est-ce que ça a limité un peu la portée continentale cette année?
Naturellement, ça limitait la portée continentale, mais l'absence particulière du Nigeria à cette rencontre est significative, parce que le Nigeria est quand même le foyer d'opération principale de Boko Haram. C'est de là où la nébuleuse terroriste a commencé véritablement à opérer dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, leur absence est un grand problème. Et puis, le Nigeria, c'est quand même l'une des plus grandes armées de l'Afrique de l'Ouest, de façon générale. Et l'une des plus grandes populations. Donc, c'est aussi l'un des plus grands réservoirs potentiels pour le recrutement des futurs djihadistes ou terroristes dans la zone. Donc, le fait que le Nigeria ne soit pas là, c'est une grande inquiétude.
Alors, Ali Tunkara, il a tantôt parlé de l'absence
des futurs djihadistes ou terroristes dans la zone. Donc, le fait que le Nigeria ne soit pas là, c'est une grande inquiétude.
Alors, Ali Tunkara, il a tantôt parlé de l'absence du Nigeria, mais l'absence du Togo aussi a été notamment observée. Alors, est-ce que ça va porter quand même une limitation quand même à la portée quand même de l'événement?
Je crois qu'au-delà du numérique, l'absence de ces États qui sont aussi rythmés par la violence terroriste dénote à combien déjà les enjeux géostratégiques en Afrique posent d'énormes difficultés à nos différents États. Si vous regardez un peu la posture du Nigeria, vous allez vous rendre compte que le Nigeria aujourd'hui ne s'attend pas, même avec les États-Unis, quant aux méthodes à emprunter dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, et pour qui connaît également, on ne peut pas se les cacher, il y a quand même là, ne va pas manifester autant d'intérêt quant aux résolutions qui seront issues de ces forums. Mais pour le cas du Togo, je crois qu'au-delà du fait terroriste, quand on analyse un peu le contexte actuel de la lequel le pays est rythmé par les revendications à la fois politiques, mais on peut même l'appeler, si vous voulez, de toute une grande sociale. Donc ce qui fait que le cas du Togo, on peut le comprendre du point de vue contextuel, effectivement, que le Togo soit absent. Mais dans le même temps, le Togo n'est pas un enjeu aussi important en parlant de l'extrémisme violent et du radicalisme religieux.
Mais le chef d'État, quand même, dirige l'Afrique de l'Ouest.
Oui, clairement. Mais sauf que, vous voyez, quand vous regardez avec attention la qualité des différents intervenants lors de ces forums, chaque intervention a mis un accent particulier sur la question de la gouvernance qui est aussi corollaire à la recrudescence de l'insécurité. Mais je crois que devant un président togolais, parler de la bonne gouvernance tout en établissant un lien avec les enjeux sécuritaires, je crois que c'est même une insulte vis-à-vis du continent, c'est même une insulte vis-à-vis des populations africaines. Donc je crois que la présence du Togo à ces forums, y égard à la malgouvernance dont le pays fait l'objet, n'était pas du tout nécessaire, en fait, à mon avis. Ouais.
Très bien. William Assanova, vous avez participé quand même à ce forum. Est-ce que sur le plan pratique, vous avez remarqué que ces absences ont pesé sur les débats?
Alors, c'est vrai que le forum de Dakar peine encore quelque peu à offrir des perspectives et des échanges allant au-delà de la situation à laquelle l'Afrique de l'Ouest et dans une certaine mesure le Sahel est confronté. Je pense que ça va être l'un, là, véritablement des défis pour les organisateurs de ce forum, pour véritablement en faire un cadre d'échange au-delà des problématiques qui concernent l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense qu'il est quand même important aussi, en dehors de l'absence du président nigérian et d'autres présidents, vous savez, si tous les présidents se retrouvaient au forum de Dakar, on ne serait plus véritablement dans un forum et ce serait pratiquement difficile à gérer. On serait là véritablement dans un sommet de l'Union africaine. Je pense aussi qu'il faut voir au-delà de ces questions. Il me semble que la participation des chefs d'État qui ont été là ont quand même permis de mettre l'accent sur un certain nombre de problématiques et de défis auxquels l'Afrique est confrontée dans les réponses apportées aux problématiques de sécurité. Et je pense que de ce point de vue, l'absence du président nigérian en personne ou l'absence même du président togolais n'ont pas véritablement enlevé la saveur qu'on pourrait retirer des discussions et des échanges qu'il y a eu tout au long de ce forum-là. Non seulement dans le cadre des échanges entre les chefs d'État, mais aussi dans le cadre des travaux en plénière et dans le cadre des différents ateliers qu'il y a eu. Et peut-être aussi, au-delà de l'absence du président nigérian, je pense qu'il y avait des participants, on a parlé de participants d'une quarantaine de pays d'Afrique et d'Europe et d'Amérique. Donc je pense quand même que, de ce point de vue, là, il y avait une forme de représentativité, d'inclusivité de l'Afrique et des points de vue qu'on pourrait voir sur le continent qui ont eu la possibilité de participer et de s'exprimer.
D'accord. Nous allons suivre ce micro-trottoir à travers la ville de Bamako.
Oui, c'est une bonne idée parce que déjà, ça prend l'indépendance, ça montre l'indépendance des Africains. Tant souhaité depuis le temps du colonialisme, et vraiment, c'est une bonne chose. Si déjà les volontés sont là, donc je pense qu'on peut le faire.
Est-ce que les États africains ont les moyens? C'est ça le problème. Mais il faudra que les États africains s'unissent d'abord. S'ils sont unis, ils peuvent voter un budget. Chaque pays va payer ça.
Je pense que c'est une très bonne idée, puisque déjà, avec l'engagement et la détermination, c'est un grand pas déjà. Donc, en plus de cela, nous avons les ressources humaines potentielles pour pouvoir le faire. Ça dépend toujours, c'est-à-dire, de la qualité de leadership de nos différents leaders.
Bon, selon moi, c'est impossible, parce que nos États n'ont pas les moyens de financer. Voilà. Quand même, je pense que c'est impossible. Qu'ils demandent l'aide des extérieurs, c'est mieux, quoi.
Pourquoi tu penses que c'est l'extérieur qui peut garantir la sécurité en Afrique?
Parce qu'on n'a pas les moyens ici pour financer.
Les moyens, là, c'est quelque chose qu'on crée. Les Blancs qui font leur sécurité et qui viennent nous aider ici, ils ont créé un moyen. Il nous faut créer des moyens pour faire notre sécurité.
Alors, William Assanova, voilà un micro-trottoir à travers la ville de Bamako. Les avis sont partagés puisque des dirigeants africains ont souhaité que notre sécurité soit prise en main par nos propres États. Alors, est-ce que nous avons les moyens financiers, humains et matériels pour mener cette guerre?
Je pense que la question ne se pose pas dans ce thème. Il faudrait qu'on se donne les moyens. Je crois qu'il est important que les Africains, les États africains, les acteurs africains soient conséquents envers eux-mêmes. À partir du moment où on a identifié un certain nombre de problèmes qui impactent sur le bien-être des populations, sur le développement, sur la stabilité de nos États, il est important pour la vision qu'on a, même la vision qu'on a en termes de développement, de pouvoir se donner les moyens d'assurer la sécurité de nos États. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur le fait que la plupart de nos États ont des capacités financières limitées, mais il est important aussi que le peu de capacités qu'on ait soit bien utilisées, bien employées. Il est important aussi de rappeler qu'avec tous les problèmes qu'on soulève régulièrement en termes de malgouvernance, en termes de corruption, de détournement, c'est là autant de problématiques sur lesquelles il faudrait qu'on se penche sérieusement pour éviter que le peu de ressources à notre disposition soient dilapidées et soient détournées des véritables problèmes qui se posent à nous en termes de sécurité et de développement. Donc oui, on a des moyens, peut-être pas suffisamment, mais il faudrait utiliser de la meilleure manière possible les moyens qu'on a. Et c'est de cette seule manière-là qu'on sera en mesure de pouvoir solliciter l'appui d'autres acteurs extérieurs pour pouvoir nous appuyer. Okay. Mais il faudrait déjà qu'à l'interne, qu'au niveau du continent, qu'on se donne les moyens d'assurer notre sécurité.
Ok. Alors, Mamadou Diouara, du fait que vous avez acquiescé de la tête, je présume que vous avez la même position que William Assanova. Mm-hmm. Alors, est-ce que ce serait des initiatives sous-régionales ou bien continentales?
Alors déjà, je confirme ce que vous avez dit. Hein. Je suis tout à fait d'accord que nous avons l'obligation d'aborder la question en termes de processus d'autonomisation de nos États dans la construction de la sécurité. Et cela va cela passe nécessairement par différents gaps. N'est-ce pas? Il a parlé du côté de la sécurité, de la lutte contre la corruption et tout ce qui s'ensuit. Mais au-delà de ça, il faut également penser la sécurité selon nos réalités. Parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes de sécurité que les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas les mêmes problèmes de sécurité que le Royaume-Uni. Et il faut qu'on arrive à penser la sécurité en fonction de la structure de nos États, de nos sociétés et de notre environnement. Et construire les réponses adaptées à cette réalité. Et ça, c'est très important parce que quel que soit le dispositif sécuritaire qu'on mettra en place, tant qu'il n'est pas porté par les ressources internes, eh bien, c'est une sécurité de façade. Le jour où le soutien de cette sécurité ne sera pas d'accord avec nous, eh bien, on sera vulnérable. Donc, voilà pourquoi ça devient très pertinent. Maintenant, c'est très important que l'initiative soit prise comme ça à l'échelle, à partir de ce forum. Mais pour qu'on arrive à une sécurité de l'Afrique construite de façon solide, je pense qu'on peut passer par des constructions sous-régionales. Ces constructions sous-régionales s'appuient sur des réalités locales et ensuite, maintenant, on pourra, sur la base de ça, construire un dispositif national. Pour la simple raison que, comme je l'ai dit au début de mon propos, la sécurité devant se baser sur notre environnement immédiat et nos réalités propres, il nous faudra partir par les différents environnements locaux pour pouvoir arriver maintenant à un système africain plus cohérent et plus ancré.
Okay. Plus enracinés. Mais on a tout comme l'impression qu'on est un peu redondant quand même dans ces forums-là à propos du thème, parce qu'on dit défi sécuritaire actuel en Afrique pour des solutions intégrées. Donc ça, c'était le thème. À part le défi sécuritaire actuel, quand même, l'intégration des solutions est une volonté quand même ancienne qui existe, notamment avec le terre actuel en Afrique, pour des solutions intégrées. Donc ça, c'était le thème. À part
le défi sécuritaire actuel, quand même, l'intégration des solutions est une volonté quand même ancienne qui existe, notamment avec la création de la force d'intervention rapide de l'Union africaine. Alors, est-ce que ce forum aussi va être un forum de plus? Qu'est-ce qui peut changer?
Je pense que ce forum donne des élans qui peuvent quand même donner un peu d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il fait suite à une succession d'initiatives démontrant la volonté politique de nos dirigeants à aller vers une solution intégrée. On se rappelle que pendant plusieurs années, le président Atete avait appelé de tous ses voeux la création d'un état-major commun pour lutter contre la situation au Sahel, face à laquelle les autres dirigeants étaient restés silencieux. Il faut croire qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'exigence sécuritaire oblige nos dirigeants à finalement faire le pas en avant vers l'intégration. Le Liptako Gourma a essayé de mettre en place un dispositif. Ensuite, ça a été aspiré par le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO met en place dans tous les pays les centres d'alerte, n'est-ce pas, avec une dynamique. Et on sent de plus en plus des pays comme le Maroc, comme la Mauritanie, qui essayent d'intégrer la CEDEAO. Je pense qu'il y a une dynamique véritable qui démontre la volonté politique nouvelle de nos dirigeants d'aller concrètement vers une intégration. Maintenant, jusqu'où ça va aller, c'est ce que je ne sais pas, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres obstacles sur cette route dont la levée n'est pas tout à fait évidente.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc sur ce plateau, forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le continent a-t-il les moyens de sa sécurité? Alors, pour en débattre, nous avons fait appel à Mamadou Diouara, il est chef de cabinet de recherche Gaïa. Djakari Poudjougou, c'est bien ça, hein? Djakari Poudjougou, docteur en sciences juridiques et politiques. Docteur Ali Tungara est sociologue et William Assano est chercheur à l'ISS à Abidjan. Alors, docteur Djakari Poudjougou, alors, que dira de l'organisation quand même de ces interventions? Est-ce que ce serait une initiative sous-régionale ou bien continentale?
Merci pour cette question très importante. Certains ont répondu en disant que nous n'avons pas les moyens. D'autres ont dit nous devons nous créer les moyens, ainsi de suite. Mais en réalité, nous avons les moyens. Nous avons un énorme potentiel. Et je dirais plutôt que nous devons bien gérer nos moyens. Toute la difficulté tourne autour de la gouvernance ou de la gestion. Et ça a été dit, je suis très satisfait de l'avoir entendu. Le problème que nous avons en Afrique est un problème de gouvernance. Tant que cela ne sera pas résolu, on a beau organiser des forums, il y aura même 1000 forums, jusqu'à 1000 fois de forums à Dakar, on n'en sortira pas. Et si on regarde les États dont nous avons parlé, comme le Nigeria, ce n'est pas un tabou. On sait le niveau de la corruption. Notre pays n'échappe pas à cette règle, il faut le dire, les choses telles quelles. Même la crise que nous sommes en train de vivre a aussi une part liée à la gouvernance. Et même le terrorisme a une grande part dans la malgouvernance, parce que les jeunes qui sont désespérés se font facilement recruter, vont même légitimer les actions terroristes. Et ça crée aussi une frustration. Donc, la malgouvernance est réellement à l'origine de tant de problèmes que nous avons. Nous avons les moyens, mais est-ce que nous les utilisons? Nous ne les utilisons pas. Nous les utilisons plutôt à d'autres finalités ou pour d'autres choses. Pour autre chose. Pour rester plus longtemps au pouvoir. C'est clair, c'est ce que nous voyons. Si nous regardons les expériences de l'Union africaine, on se rappelle bien que notre ancien président Alpha Omar était président de la commission de l'Union africaine. En 2008, je me rappelle encore de ses propos, il a crié au scandale, il a dit c'est scandaleux. En 2008, notons bien que 58 millions de dollars des contributions qui devaient arriver dans la caisse pour le financement des opérations de paix, du Conseil de paix et de sécurité, n'avait pas été versé. Ce n'est pas que ces États n'avaient pas les moyens, ils l'avaient. Et au même moment, les contributions extérieures s'élevaient à plus de 142 millions de dollars.
et les moyens déployés au Darfour. On était à 95% de moyens venus de l'étranger, contre 5% seulement de moyens africains. C'est honteux. Je crois que si nous voulons arriver à la sécurité et à la paix, nous devons assumer notre rôle. Nous devons nous accepter, nous.
Entre guillemets, son traumatisme, quand il dit être inquiet à chaque fois qu'il reçoit un coup de fil, il veut savoir qu'est-ce qu'on va lui annoncer encore à propos du terrorisme, du djihadisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a un manque de sérieux, entre guillemets, dans la préparation de ces forats-là?
Non, je crois que ces inquiétudes sont quand même légitimes, y égard à l'insécurité grandissante tant aux régions dites nord et au centre du pays. Je crois qu'effectivement, il y a de quoi s'inquiéter en toute franchise. Hein. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que dans le contexte malien, ces forums posent des questions qui me paraissent existentielles. Déjà, les différents chefs d'État ont affiché leur volonté de s'autonomiser vis-à-vis des solutions qui sont mûries, réfléchies dans des salons parisiens et new-yorkais, lesquelles solutions nous viennent d'en haut, qui ne peuvent aucunement apporter des solutions durables à nos logiques du terroir. Ça, c'est une initiative à saluer. Mais dans le même temps, je crois qu'au-delà du cas particulier malien, et si vous regardez un peu ces forums dans son ensemble, qui peut croire qu'une Algérie, qu'un Maroc soit dans un même forum afin de conjuguer justement, ça répond en partie à votre question quant aux solutions continentales. Je crois que nous sommes plus dans des solutions plus sous-régionales que continentales, parce que pour les enjeux liés au continental, difficilement on pourra arriver à des solutions durables. Maintenant, revenons sur le cas précis du Mali. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de terrorisme, qu'on soit à Pékin, à Bamako, à Jakarta, en tout cas, les cas maliens apparaissent nettement. Parce que nous, à mon entendement, nous avons en face d'une multitude de formes de l'extrémisme violent. Vous avez des formes que moi je qualifierais des résiduelles, des attaques à mes armées qui sont quotidiennes dans pas mal de nos localités. Mais dans le même temps, vous avez aussi des revendications d'une dimension territoriale à une dimension religieuse. C'est le cas de Kidal. Mais là, en parlant du cas de Kidal, quand même, ça remet aussi en cause, justement, la franchise dont la France fait l'objet quant à ses soutiens financiers, matériels, même humains accordés à nos différents États. Vous ne pouvez pas comprendre que de 2013 à aujourd'hui, la France se montre tout à fait courtoise vis-à-vis des différents États africains dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, mais c'est cette même France qui demande à une armée régalienne là où elle a à se positionner, là où elle a à intervenir. Donc vous comprendrez aisément que la lutte contre l'extrémisme violent, elle n'est pas que militaire, mais elle cache derrière des enjeux financiers qui me paraissent importants. Maintenant, pour le contexte malien, en parlant du président de la République, effectivement, je crois qu'il est aux abois. Aujourd'hui, du début de ce quinquennat aujourd'hui, si nous établissons les bilans, justement, mais ce qui a été fait sur le plan sécuritaire, le bilan, il est vraiment catastrophique. Parce que de 2013 à aujourd'hui, si l'on parle d'accalmie dans les régions nord et au centre du Mali, c'est pour prendre les Maliens des idiots, en fait. Je crois que sur le plan sécuritaire, des efforts restent à consentir. Mais surtout, au lieu de s'attaquer justement à l'existant, il serait extrêmement important de s'interroger sur les raisons existentielles qui ont conduit justement à cette recrudescence de la rébellion et à cette montée en puissance de l'extrémisme violent. Aucun chef d'État n'oserait dire aujourd'hui que la question de la gouvernance, elle est fondamentale. Aucun chef d'État africain n'a le courage de dénoncer son homologue togolais pour lui dire que stop, il est extrêmement important que tu cautionnes effectivement les règles de la démocratie qui sont des valeurs universalisables et partageables.
Ok, William Assanova, est-ce que ce serait un forum de plus? Qu'est-ce qui peut changer? Vous avez suivi quand même les résolutions du forum de Dakar.
Il est important de préciser, comme son nom l'indique, il s'agit d'un forum. Ce n'est pas un sommet, c'est un cas de prise de décision. Il n'y a aucune décision qui a été prise. Il y a une série de recommandations et d'idées qui ont été avancées. Et donc c'est important de le rappeler pour vraiment avoir à l'idée la portée et la valeur d'un cadre de cette nature-là. Et effectivement, à côté du forum de Dakar, on a un forum aussi à Casablanca sur la sécurité aussi. Il y a un forum aussi de Marrakech. Il y a un forum aussi à Tanas plus sur les questions de sécurité. Je suis d'avis avec ceux qui pensent qu'il y en a beaucoup déjà et on est assez maître dans l'art de la parlotte et dans l'expression de vœux pieux très souvent, de volonté, et qu'il faudrait aller au-delà de ces idées, de ces vœux, de ces volontés exprimées. Et je pense que malgré les quelques efforts quand même qui sont fournis par un certain nombre de pays, notamment pour opérer un rattrapage de l'outil sécuritaire, un rééquipement, notamment au Niger, ça s'est vu au Niger, je crois, dans une certaine mesure au Mali, à travers des lois de programmation, en Côte d'Ivoire aussi, il y en a eu. Donc il y a un effort qui est en train d'être pris. Mais je pense qu'on en a encore, on est encore très loin d'être à la hauteur des défis sécuritaires auxquels on est confronté. Et là, je parle en termes de moyens matériels, je parle en termes aussi de connaissances et de capacités de nos armées à pouvoir faire face à cette multitude de défis et de défis qui deviennent de plus en plus asymétriques. Et donc, pour résumer, oui, c'est un forum. Oui, on a suffisamment parlé et oui, il faut aller vers beaucoup plus d'action et de prise de décision. Et malheureusement, on en est encore un peu loin.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Retour donc sur ce plateau pour parler du forum sur la paix et la sécurité en Afrique avec nos invités. Mamadou Diouara, chef du cabinet de recherche Gaïa. Diakari Poudjougou, docteur en sciences juridiques et politiques. Docteur Ali Tunkara, sociologue. Et William Assanova est chercheur à l'ISS Dakar, à l'ISS Abidjan. Donc, nous allons suivre ce papier de la rédaction du Studio Tamani.
Selon le président sénégalais, le mandat de la MINUSMA n'est pas adéquat face à la menace terroriste. Macky Sall a rappelé la nécessité de traiter le terrorisme et ses causes partout avec la même détermination, estimant que tant qu'il reste une zone de vulnérabilité, les pays de la région continueront tous d'être exposés à la menace. Et le président sénégalais d'ajouter, il ne faut pas faire la fine bouche. On ne peut pas avec des fleurs accueillir ou régler les problèmes au Sahel. Le Sénégal est l'un des principaux contributeurs en hommes dans les opérations de maintien de la paix menées par l'ONU. Le pays a d'ailleurs annoncé les renforcements de son contingent au sein de l'administration. Aux Nations Unies, on assure déjà travailler à l'évolution de l'administration sur le terrain. Selon Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix à l'ONU, il y a un défi opérationnel qui est de faire en sorte que les forces onusiennes soient moins vulnérables à ces attaques. Il estime que cela passe par un renforcement des moyens, l'ajout de certaines capacités que l'administration n'a pas encore.
Docteur Poudjougou, alors on ne va pas faire la fine bouche, mais est-ce que les problèmes internes ne risquent pas de saboter l'intégration des forces tant souhaitées quand on voit l'exemple de l'Algérie qui refuse d'intégrer le G5 Sahel?
Bien, l'Algérie est en train de nous donner une leçon, parce que malgré tout ce qu'on peut dire sur l'Algérie, elle arrive quand même à sécuriser son territoire. Et lorsqu'il y a eu la prise de l'usine de gaz, on l'a vu, l'Algérie n'a pas eu besoin d'aide extérieure ou d'intervention extérieure. Elle s'est défendue toute seule. Est-ce que nous sommes capables de faire pareil? Il est facile de critiquer l'AMINUSMA ou de dire ceci, mais qu'est-ce que nous avons créé? Nous pouvons aller en dehors de l'AMINUSMA. Il y a la charte de l'Union africaine, mais aussi le protocole créant le Conseil de paix et de sécurité qui nous permettent de mener des opérations de paix, voire des opérations d'imposition de la paix. Pourquoi faut-il toujours attendre quelque chose des Nations Unies lorsque nous avons des possibilités?
Mais est-ce que ce sera facile, vu que l'Afrique quand même n'a pas de représentant permanent au Conseil de sécurité? Est-ce que ça va être facile de mobiliser des forces quand même dans ce sens-là?
Je suis en train de dire que le droit international a évolué. Autrefois, les forces d'imposition ou les missions d'imposition de la paix dépendaient, étaient décidées uniquement par les Nations Unies. Mais désormais, on sait que la charte de l'Union africaine permet aussi une telle mission d'imposition de la paix. Pourquoi ne pas se passer carrément si nous ne sommes pas, nous n'avons pas le droit de veto au Conseil de sécurité? Ce n'est pas un problème. Nous avons notre droit africain qui nous permet de mener des opérations d'imposition de la paix. Nous l'avons fait aux îles Comores et on peut le faire ailleurs. Donc le droit de l'Union d'intervenir sur le territoire des États membres pour des questions de paix et de sécurité. Et ça, c'est quelque chose que nous devons exploiter. Si l'aménagement, si le mandat, c'est vrai, on le sait clairement, le mandat actuel de l'aménagement ne change rien à la situation actuelle. Il faut se le dire. Et je l'ai déjà dit dans un article. Et si on ne peut pas changer donc le mandat de l'aménagement, nous pouvons créer notre propre mandat dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité.
Très bien.
Donc nous devons nous assumer et être autonomes au lieu de se vendre toujours comme des petits-enfants.
Ok, Mamadou Diouara, alors le Mali a tout le temps réclamé de renforcer les mandats quand même de l'aménagement ici. Mais d'après vous, pourquoi les Nations Unies sont toujours réticents quand même à donner un mandat plus robuste à l'aménagement notamment?
Bon, je pense qu'il faut déjà rappeler que le mandat de l'aménagement de la résolution 2100 qui a autorisé sa venue ici à aujourd'hui a évolué plusieurs fois. Mais la situation sur le terrain a évolué de façon beaucoup plus accélérée et beaucoup plus grave. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier et qu'il ne faut pas occulter. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est qu'il faut aussi constater que quand les Africains se réunissent pour dire « bon, nous voulons prendre en charge notre propre sécurité », ça dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière. Hein? Rappelez-vous, quand l'OTAN avait décidé, après la résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, d'intervenir en Libye, l'Union africaine a envoyé une mission. Mission à laquelle on a pratiquement interdit de fouler le sol libyen, en les disant clairement, si vous y arrivez, vous êtes responsable de votre propre sécurité. Pourtant, c'est l'Union africaine qui intervenait dans un pays africain en situation de conflit. C'est très révélateur, hein, en termes de souveraineté de l'Afrique en Afrique. Voilà, ça c'est très important. Bon, aujourd'hui les lignes peuvent bouger, mais pour que les lignes bougent, comme le docteur vient de le dire, pour que le Conseil de paix et de sécurité puisse fonctionner, encore faut-il que les contributions internes de l'Afrique égalent les contributions externes. Donc, encore une fois, ça nous ramène à la grande question de la gouvernance. Mais c'est là aussi où ça devient intéressant. Quand des chefs d'État se déplacent pour aller dans un forum pour dire nous devons prendre en charge notre propre sécurité et cela passe par une réforme de la gouvernance, c'est un bon son de cloche. Après, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est là où toute la question d'interrogation se pose. Et je pense que le Mali n'a pas besoin que l'aménagement renforce son mandat. Non. L'aménagement ne résolvera pas le problème de la sécurité au Mali. C'est l'armée malienne qui va assurer la sécurité. C'est l'Afrique qui va pouvoir assurer la sécurité. Au lieu de demander de renforcer le mandat de l'aménagement, il faut renforcer la mission du G5 Sahel et renforcer le système de défense au Mali, de défense et de sécurité au Mali. L'aménagement sera là pour faire un accompagnement en termes de logistique, en termes d'appui technique et de l'autre côté, sur la question de la sécurité humaine, comme c'est une mission multidimensionnelle, continuer ses autres missions. Je pense que ça, c'est plus intéressant que de renforcer le mandat de l'aménagement parce qu'ils sont là pour un temps, ils sont censés repartir un jour et le jour où ils repartiront, il faudrait bien que nous soyons suffisamment aptes à continuer à assurer notre propre sécurité.
Ok. Alors, docteur Tungara, nous avons appris que le Sénégal décide quand même de renforcer son contingent. Alors, que faut-il comprendre par cette volonté sénégalaise de renforcer son contingent? Est-ce une façon de s'introduire quand même, de séduire pour pouvoir intégrer le G5 Sahel?
C'est une des hypothèses à avancer, mais dans le même temps, l'engouement que le Sénégal a vis-à-vis du G5 Sahel témoigne à suffisance ses ambitions d'être le gendarme de la sous-région en parlant de l'insécurité, en parlant de l'extrémisme violent. Je crois qu'il est extrêmement important de comprendre que contrer la montée de l'extrémisme violent dans le contexte malien ne dépend pas d'une révision quelconque de la nature de du mandat des forces étrangères. Et prenons juste l'exemple bidon de la Syrie. Et vous allez vous rendre compte que lorsque les forces russes sont venues épauler, on ne va pas rentrer dans la légitimité de ce qu'ils font ou pas, mais en tout cas, lorsque la Russie est venue soutenir les actions militaires syriennes, on a compris heureusement que les opérations qui sont menées sont décidées conjointement entre les deux forces. Or, dans le contexte malien, il ne s'agit pas de faire recours à une force étrangère. Il s'agit plutôt de définir clairement quelles sont nos attentes vis-à-vis des forces étrangères. C'est ce jeu qui n'a pas été fait par le Mali. Et toutes ces forces qui sont sur le territoire au Mali, vous allez vous rendre compte qu'elles interviennent tout en mettant le Mali à la touche. Vous ne pouvez pas venir aider un pays souverain et ne pas justement l'impliquer. Ce n'est même pas, c'est au pays souverain d'ailleurs, de vous impliquer à comment mener vos missions. Mais si vous prenez les forces Barkhane, celles de l'Union africaine, vous allez même celles de l'aménagement, vous allez vous rendre compte que ce sont des différentes forces qui se sont même substituées à l'État souverain malien. Je crois que c'est d'où toute la problématique à comment définir clairement les attentes que nous, Maliens, avons vis-à-vis de ces forces. Et non à ces forces de nous dire à comment opérer sur le terrain. Je disais tantôt, l'attitude de la France vis-à-vis de nos forces de sécurité et de la défense est une illustration parfaite d'une mise à la touche d'un État souverain qui se trouve aux abois. Donc, que le Sénégal nous apporte un soutien de plus, l'idée est à saluer. Mais dans le même temps, il y a des enjeux derrière. Le Sénégal, certes, aujourd'hui, n'est pas du tout ébranlé par les attaques terroristes. Mais n'oublions pas que les différentes confréries qui rythment le quotidien sénégalais font qu'aujourd'hui, le Sénégal n'est pas à l'abri d'une montée de l'extrémisme avec le référent religieux. Mais je crois qu'il est extrêmement important qu'au Mali, qu'on se dise qu'attention, certes, nous étions à un moment donné de l'histoire dans des difficultés, lesquelles difficultés nécessitaient le recours à l'étranger, mais il fallait quand même, pendant ces recours, définir clairement nos attentes vis-à-vis de l'étranger. Mais je crois que jusqu'ici, l'élite politique malienne, elle a du mal à définir clairement ses attentes.
William Assanova, alors l'exemple du G5 Sahel quand même est salué à propos de la prise en compte de la sécurité des Africains par des Africains. Alors, le Sénégal qui veut intégrer, l'Algérie qui ne veut pas intégrer. Alors qu'est-ce que nous perdons, qu'est-ce que nous gagnons dans l'un et l'autre cas?
Alors, il est important de rappeler, et je pense que le président Macky Sall l'a dit lors de son intervention lors du panel des chefs d'État, il a souligné le fait que pour le Sénégal, la sécurité au Mali et la sécurité du Mali était une priorité, et que la sécurité du Mali était vue comme la sécurité du Sénégal. Et donc, de ce point de vue, ça explique la raison pour laquelle le Sénégal, qui a déjà des troupes au sein de l'aménagement, des troupes qui ont aussi connu des pertes en vies humaines à l'occasion de certaines attaques au cours des mois précédents. Donc, le Sénégal a une volonté, à travers son investissement dans l'aménagement, d'apporter une contribution donc à cet effort de pacification du pays. Et peut-être, permettez-moi de revenir rapidement sur le débat qu'il y a eu sur la robustesse ou non du mandat. Je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Le problème est véritablement d'ordre doctrinal. Ou véritablement au niveau des Nations Unies, on se rend très bien compte que les opérations, les missions de maintien de la paix, ou qu'elles soient même des opérations d'imposition de la paix, ne sont pas adaptées à la nature de la menace à laquelle ils sont confrontés au Mali. Donc, renforcer, rendre le mandat plus robuste, oui, c'est juste des mots sur un papier, Déjà avec le mandat actuel, on se rend compte que la force n'a pas les moyens d'appliquer tout ce mandat. Donc en le renforçant davantage, je pense que pour une bonne partie, ça restera robuste que sur le papier. Et je pense aussi que lorsqu'on parle des opérations de maintien de la paix, il faut avoir à l'esprit que ce sont des pays contributeurs qui mettent à disposition de l'ONU leurs forces. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a très peu de pays qui sont disposés à pouvoir engager leurs troupes dans des opérations antiterroristes. Déjà, elles n'ont pas tous les moyens de le faire.
Okay.
Les moyens de le faire.
Okay.
Donc, je pense que c'est important de rappeler.
Okay.
Si le Sénégal veuille ou non rentrer dans le G5 Sahel, je ne sais pas si la question se pose en ces termes, mais il y a clairement une volonté du Sénégal de jouer un rôle important dans la sécurisation du Mali, et je pense que l'outil qui est privilégié actuellement, c'est la MINUSMA.
Et le cas algérien?
Alors, l'Algérie, la position de l'Algérie est toujours très compliquée à déterminer. Je pense que l'Algérie n'a pas véritablement de volonté d'intégrer le G5 Sahel. Ils sont toujours dans cette posture, dans cette rhétorique de non-intervention. Coopération, oui, mais intervention à l'extérieur de nos pays, de notre pays, non. Et comme un des intervenants l'a rappelé, l'Algérie contribue quand même significativement à la sécurisation au niveau, en tout cas, la frontière sud avec le Mali. Et je pense aussi qu'il ne faudrait pas comparer, parce que le budget de l'armée, l'armée algérienne est sans commune mesure avec ce qui est capté que le Mali ou un autre pays de la sous-région est en mesure de mettre.
Ok, merci. Et on va aller rapidement avec votre réaction, Djouara, avant de rejoindre.
Oui. Je voudrais juste sur l'Algérie rappeler deux points importants. Le premier point important, c'est que par rapport à la lutte antiterroriste, l'Algérie est le premier pays qui a connu la menace terroriste pendant plusieurs années, et elle a appelé de ses voeux l'appui des autres. Personne ne l'a jamais répondu. Elle a donc été obligée de construire sa propre réponse au terrorisme, et donc elle s'en tient à ça pour le moment. Ça, c'est un premier élément. Et le second élément que je voudrais signaler, c'est que oui, l'Algérie fait un travail de sécurisation de ses frontières, mais par rapport à la situation du Mali, nous savons que pendant toutes les rébellions qu'on a eues et toutes les opérations qu'on a eues, les gens qui viennent attaquer au Mali finissent par se retrouver à Borj El Mokhtar, à Tamana Rachet, et ils y entrent. Est-ce qu'ils y entrent en tant qu'Algériens, avec des armes ou pas des armes? Mais ce qui est certain, l'Algérie, d'une manière, a servi de base arrière et continue de servir de base arrière. C'est un problème et une vulnérabilité pour le Mali.
D'accord. Docteur Poudjougou, rapidement votre réaction.
Bien, merci. Et j'ai plusieurs fois entendu le mot « souveraineté ». Mais ce n'est pas un jeu, ce mot souveraineté. Est-ce que nous sommes vraiment souverains? Lorsqu'on nous dit, si vous rentrez en Libye, vous êtes responsable de votre sécurité. Mais de quoi devons-nous avoir peur?
Rien.
Nous avons vu avec quel courage les soldats tchadiens ont mené le combat. Plus courageux que les Français. Nous étions bien capables d'aller en Libye et de nous sécuriser. Nous ne sommes pas souverains. C'est pour ça que je parle d'enfants. Nous devons revenir à nous-mêmes. Redevenir homme en réalité. C'est tout cela le problème.
Très bien.
Et sur le Sénégal maintenant,
oui.
Il ne faut pas être jaloux, entre guillemets. Le Sénégal, ce n'est pas sa première expérience. Le Sénégal crée une sorte d'expérience.
Nous disons merci à Mamadou Djouara, nous disons merci à Diakari Poudjougou, merci au docteur Ali Tunkara et merci à William Assanova. Je rappelle que ce débat, c'était autour du forum sur le forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le continent a-t-il les moyens de sa sécurité? Alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Ibrahim Aran Diallo et la mise en onde par Philly Dambélé. La régie vidéo, Mamadou Ouattara et Aliou Sidibé à la présentation. À la prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Haloud Mandé.
Chenne Berry, c'est qui qu'a fait pas.